Si je vous montre cette image, elle n'est pas très claire, mais ça vous rappelle quoi, ça? Oui, vous êtes tous bien français, donc on a tous ce document, pour la plupart au moins. Peut-être certains sont réfugiés ici, n'ont pas encore ce document, sont en attente. En tout cas, cette carte d'identité, elle définit quoi? Notre identité. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle définit très précisément? C'est quoi notre identité? Oui, il y a déjà donc le nom de famille, le prénom. Alors c'est parce qu'on est très nombreux sur Terre qu'on a un prénom et un nom de famille. Avant, on avait des prénoms, uniquement il y avait des prénoms. Hein. Au début, à l'origine de l'espèce humaine, on avait des prénoms. Puis après, la population augmentant, on a dit, on va définir les gens par le nom du père. Alors c'était un prénom, fils de quelqu'un. Et puis, de fil en aiguille, on est venu à avoir ce qu'on appelle le nom de famille. Et encore, ça suffit pas. Parce que quand on s'appelle Martin et Dupont, il faut un peu plus que ça. Alors, il faut un deuxième prénom, des initiales pour les Américains, etc. Qu'est-ce qui définit encore bien notre identité, à part le nom et le prénom? La date de naissance, ouais, c'est juste. La date de naissance. Et, pardon? Ouais, la photo. Alors, la photo, elle peut changer. Elle n'a pas changé, toi, Philomène? Depuis 50 ans, elle n'a pas changé. Non, c'est vrai, Philomène, c'est la seule qui n'est pas changée. Moi, j'ai changé, en tout cas. C'est pour ça que je ne vous montre plus ma carte d'identité. Voilà. Mais la photo, elle peut changer, l'adresse peut changer. Il n'y a pas grand-chose, en fait, qui me définit. Pardon ? La hauteur. La hauteur, oui, mais la hauteur, elle peut changer aussi. Parce que, avec l'âge, on perd des centimètres. Hein. On se tasse un peu. Voilà, ouais, mais même la couleur, ça peut changer. Il y a pas mal de choses. La religion, elle peut changer aussi. La race, elle peut ne pas changer éventuellement. La couleur de peau, effectivement. Le métier, est-ce qui définit bien la personne? Non, le métier, il peut changer. En tout cas, il y a une chose. À part le nom, le prénom, finalement, la date de naissance, il y a une chose aussi qui nous définit, nous, en tant que chrétiens, c'est quoi? C'est nationalité. Oui, la nationalité, oui, mais on peut changer de nationalité, on peut changer de passeport, on peut avoir des doubles ou des triples passeports, comme Carlos Ghosn, par exemple. Par exemple. Non, il y a une chose qui ne change pas quand on est chrétien, c'est quoi? C'est le sexe. Alors là encore, on peut changer de sexe aussi, malheureusement. Alors ça, normalement, oui, mais on vit dans une époque où c'est pas tout à fait. Il y a des choses qui sont fiables, d'autres qui sont moins fiables. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce qui nous définit précisément? On est enfant de Dieu. Ouais, on est enfant de Dieu. Et la Bible nous dit que nos noms sont inscrits dans un livre qui est dans les cieux. Et ça, on peut pas le rayer. On peut pas effacer ce nom. Hein? En tant que chrétien, il y a deux choses qui nous définissent. C'est que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et on a également le sceau du Saint-Esprit. Qui est un peu un sceau invisible, mais ce don du Saint-Esprit que Dieu nous donne à la nouvelle naissance lorsqu'on est chrétien, ça nous définit. Lors du dernier message, il y a un mois à peu près, je vous avais parlé de la manière dont Dieu voulait organiser l'Église, et notamment que Dieu donnait à l'Église des personnes pour le perfectionnement de tout le monde, afin que toute l'Assemblée puisse avancer vers la stature parfaite de Christ. C'était le thème de ce message, basé sur Éphésiens 4. Et pour que ça fonctionne, je vous avais dit que chacun doit être à sa place et chacun doit réaliser ce pourquoi Dieu l'a appelé. Donc en premier lieu, réaliser cette identité que nous avons en Christ. Hein, je vous ai dit, dans l'identité, on a vu sur une carte d'identité, il y a des choses fixes et il y a des choses qui bougent. Donc le but, c'est que chacun puisse réaliser que Dieu nous a appelés pour quelque chose de précis, de fixe, et c'est quelque chose ne changera pas, parce que l'appel de Dieu est irrévocable, nous dit la Bible. Et donc, au cours de ce premier trimestre 2020, déjà, nous sommes engagés dans un processus qui vise à aider chacun, ici, dans l'Assemblée, à mieux servir le plan de Dieu, le dessein de Dieu dans sa vie. Et si on regarde dans Actes, chapitre 13, verset 36, hein, c'est le départ des premiers missionnaires, Acte 13, Paul et Barnabas sont envoyés. Et à un moment donné, ils arrivent à Antioche de Pisidie et ils rendent témoignage aux Juifs de la ville d'Antioche de Pisidie. C'est quelque part en Turquie aujourd'hui. Et donc voilà ce qu'écrit Paul. Il écrit en Actes chapitre 13 verset 36. Vous pouvez regarder pour ceux qui ont leur Bible. Il écrit « Pourtant David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. » Je lis dans la version Semeur. « David, le roi David, le fameux roi David, à qui tout juif fait référence, il est dit qu'il a en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. » Et le terme qui est utilisé dans le texte original, c'est littéralement « il a ramé sous les ordres d'un chef ». C'est ça que ça veut dire. Il a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Il a ramé sous les ordres d'un chef. Et après, il est mort, il est enterré, etc. Et là, il parle de la décomposition, etc. Donc, ça veut dire que le roi David, si grand qu'il était, il avait une place dans le plan de Dieu et il a ramé durant une petite période, peut-être 70, 75 ans. Il a été au service de Dieu et il a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Et le verbe qui est utilisé ici, ramé sous les ordres d'un chef, eh bien, il est utilisé 3 fois seulement dans le Nouveau Testament. C'est un terme très original, dont en acte 20, hein, en acte 20, quand Paul prend congé des anciens d'Éphèse, il va leur dire « Mes mains, regardez mes mains, hein, on a parlé de mains aujourd'hui, regardez mes mains, ces mains ont contribué, elles ont pourvu à mes besoins. » Et le mot « pourvoir à mes besoins », c'est aussi une autre signification de ce verbe « servir », ramé sous les ordres d'un chef. Donc les mains de Paul ont en quelque sorte ramé au service du plan de Paul. Hein, et il faisait des tentes, Paul faisait des tentes, il travaillait, il gagnait de l'argent comme ça, il était missionnaire en même temps. Donc la notion de servir, de prendre soin, de ramer sous les ordres d'un chef supérieur, eh bien, c'est notre vocation à nous tous, hein, en tant que chrétiens, servir et contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Donc nous allons voir aujourd'hui, pour continuer dans cette réflexion du premier trimestre, du service, de l'engagement, de l'unicité de nos dons et de nos talents, nous allons voir donc un texte important qui va introduire une prochaine étude qu'on aura le 6 mars sur les dons spirituels, la découverte de nos dons spirituels. Parce que pour bien utiliser ces dons, il faut que nous soyons au clair de qui nous sommes intérieurement. Et on va voir aujourd'hui un personnage qui illustre à la perfection la conscience de qui il est et de sa manière, de la manière avec laquelle il va servir Dieu dans sa vie. Et on va ouvrir donc nos Bibles dans l'évangile de Jean, dans un passage qu'on passe assez rapidement en général là-dessus, et c'est un passage qui va nous livrer vraiment des perles. Jean chapitre 1. Alors, quand je vous dis Jean chapitre 1, tout de suite, on pense à quoi ? La parole, au commencement était la parole, etc. Voilà. Et puis après, chapitre 2, ben, on commence à voir Jésus qui rentre en scène. Et en fait, dans Jean chapitre 1, il y a autre chose que Jésus. Et on va voir un peu ce que va nous dire ce texte. Donc Jean chapitre 1, on va lire à partir du verset 19. Et donc c'est une histoire de la rencontre entre un prophète, en l'occurrence Jean-Baptiste, et c'est de lui qu'on va parler, et les autorités juives. Donc Jean chapitre 1, on va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 28. Le texte n'est pas très long. Je lis dans la version Second à la Colombe. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il confessa sans le nier. Il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ?» Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu donc ?» Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Alors, cette entrée en scène de Jean-Baptiste, elle est racontée dans d'autres évangiles, mais de manière différente. Vous savez qu'on est dans l'évangile de Jean, c'est un évangile tout à fait particulier qui focalise vraiment sur Jésus, le Fils de Dieu. Il n'y a pas de généalogie, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de référence à sa naissance. On rentre dans le vif du sujet parce que Jésus, Jean veut montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, dans la conclusion, la pré-conclusion de son évangile, il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est la conclusion du chapitre 20 de Jean. Donc, c'est une histoire, une rencontre, ici, et cet échange entre Jean et les autorités ne nous est relaté qu'ici. Donc, ce que je vous propose, on va voir donc le contexte de ce passage, on va voir les acteurs qui sont en jeu, on va voir quels étaient les objectifs des autorités, pourquoi est-ce qu'ils sont venus voir Jean, ils ont fait quand même des kilomètres, on verra tout à l'heure. On va voir quelle est la réponse de Jean-Baptiste, c'est ça qui est intéressant, comment Jean-Baptiste se définit, et c'est remarquable. Et puis on regardera quelques applications, des applications pour les gens de l'époque, et surtout des applications pour nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, le contexte. Eh bien, on est dans un contexte historique douloureux. Pourquoi douloureux ? Parce que ça fait 400 ans, plus de 400 ans, que le peuple juif, le peuple d'Israël, n'a pas entendu la voix d'un prophète. Ils ont rejeté les commandements de Dieu, ils ont été déportés à Babylone, ils sont revenus, il y a eu un petit retour, ça se passait pas trop bien, beaucoup d'idolâtrie, etc. Donc Dieu, il a, avec Malachie, il a arrêté de parler. Alors il y avait des gens, bien sûr, pieux, qui attendaient le Messie, qui souffraient en silence, pendant des générations se sont succédées, ils attendaient le Messie, ils savaient que le Messie allait venir, Malachie en avait parlé, mais il y avait toujours rien. Et on était dans un contexte, un environnement religieux qui était cadenassé, qui était verrouillé, catenaccio, on dirait, en italien, catenaccio, c'est le catenaccio, voilà, avec le bon accent tonique. Un environnement cadenassé, un environnement miné par la tradition. Les Juifs avaient rajouté des tas de commandements. En fait, ils connaissaient plus Dieu. Ils connaissaient les commandements, ils connaissaient la loi. Ils avaient des signes extérieurs de religion, mais intérieurement, c'était vide. Peut-être une similitude avec notre époque. Et dans ce contexte-là, apparaissent deux naissances miraculeuses qui nous sont racontées dans Luc. La naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, j'y reviens pas, naissance miraculeuse par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la naissance de Jean-Baptiste, souvenez-vous, c'est quand même une naissance miraculeuse. Zacharie et Élisabeth étaient tellement âgés qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants, et soudain Jean-Baptiste arrive. Donc, deux naissances miraculeuses qui nous montrent que finalement, même quand il ne se passe rien, Dieu est quand même à l'œuvre. Même quand on ne voit rien, Dieu agit en coulisses. Et voilà que Jean grandit et il apparaît dans le désert et sa personnalité, elle attire. Alors il prêche dans le désert, c'est un homme du désert, il est vêtu d'un vêtement de poil de chameau, nous dit Matthieu, il mange du miel sauvage et des sauterelles. Un peu inhabituel pour un fils de sacrificateur. Et il apparaît à Béthanie, ça se passe à Béthanie. En fait, il y a certains manuscrits qui traduisent non pas Béthanie, parce qu'il peut y avoir confusion avec le Béthanie de Lazare, Marthe et Marie. On est plutôt à Bethabara. C'est un lieu qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, un peu à l'endroit en fait où les Israélites ont traversé le Jourdain. Et donc Bethabara, ça veut dire « maison du désert ». Littéralement déprimé, miséreux. Et je ne sais pas si c'est un hasard, je ne crois pas, c'est exactement là que Gédéon avait battu les Madianites. Et souvenez-vous, le temps de Gédéon en Juges 7, c'était un temps pareil, de désert spirituel, d'idolâtrie du peuple d'Israël. Et c'était un temps d'anarchie et de misère, un petit peu comme à l'époque de l'apparition de Jean-Baptiste. Donc l'état spirituel du peuple, après ces 400 ans de silence, est lamentable. Parce que par son refus de suivre les commandements de Dieu, par son refus du Messie, eh bien, Israël est dans un espèce de désert. Et il restera, malheureusement, Israël va rester encore aujourd'hui dans un désert difficile jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Jésus est le Messie. Et ça, Zacharie nous dit qu'un jour, lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois, il posera son pied sur le mont des Oliviers, il viendra délivrer Israël, et là Israël va le reconnaître, il va pleurer sur son Messie. Zacharie nous dit, ils pleureront sur celui qu'ils ont percé. Encore une histoire de main. Voilà, donc on est dans ce contexte de sécheresse spirituelle et Jean-Baptiste apparaît. Et c'est important à comprendre parce que là, Jean va arriver et il va accomplir la dernière prophétie de l'Ancien Testament qu'il reste à accomplir avant l'apparition du Messie. Et c'est une prophétie d'Ésaïe qu'on voit en Ésaïe 40. C'est la voix qui crie dans le désert et c'est ce qui va caractériser Zacharie. Donc un contexte historique de sécheresse, un contexte de douleur qui n'est pas sans rappeler le contexte qu'on vit aujourd'hui. Même dans nos milieux dits chrétiens, avancés, civilisés, etc., il y a beaucoup, beaucoup encore de sécheresse et de désert intérieur. Il y a peut-être des signes extérieurs, on fait des tas de choses, mais intérieurement, on ne sait pas ce qui se passe, parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le cœur. Deuxième élément de contexte, eh bien, ce contexte de passage est étonnant, parce qu'on est dans le prologue de Jean, comme je vous l'ai dit, qui identifie Jésus comme Dieu. Hein, il l'identifie comme parole faite chair. Mais Jean-Baptiste, on s'aperçoit, et j'ai été étonné moi, en étudiant ce texte, la place que prend Jean-Baptiste dans ce chapitre 1 de Jean. Il a une place considérable. On est encore avant le ministère terrestre de Jésus. Et Jean-Baptiste, il en est parlé mais de nombreuses fois. C'est pour ça que ça vaut le coup de s'arrêter. Et pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a-t-il une place aussi importante? Ben, je crois que c'est parce que lorsque Jésus va parler de Jean-Baptiste, hein, plusieurs fois dans Luc 7 ou dans Matthieu 11, il va dire « De tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. » C'est étonnant quand même. Rendez compte, Abraham, Moïse, Élie, Josué, Daniel, tous ces gens, tous ces monuments de l'Ancien Testament, Jésus est en train de dire « De tous ceux qui sont nés de femme, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. » Et il continue « Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Ça nous donne une échelle un petit peu de l'importance. Qu'est-ce que l'importance d'un être humain? Et aujourd'hui, dans le monde, l'importance se mesure à la taille de sa fortune, à la grandeur de sa maison, à la taille de sa voiture, le nombre de chevaux, etc. Et bien, l'importance dans le royaume des cieux est tout à fait différente. Et là, donc Jean-Baptiste apparaît, il va donner trois témoignages. Au verset 6, hein, on ne l'a pas lu, mais au verset 6 de l'évangile de Jean, il va nous dire « Il y eut un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. » Jean n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et puis au verset 15, il donne un témoignage de sa place, de son rang. Il dit « Il y en a un qui vient après moi, mais en fait il était avant moi. » C'est-à-dire que même si moi je suis le premier, et c'est vrai qu'en âge, Jean-Baptiste, il a en gros 6 mois de plus que Jésus. C'est pas énorme. Eh bien, pourtant, Jean-Baptiste, il dit, il connaît sa place. Il est numéro 2, il n'est pas numéro 1, et il assume cette place. Et il va donner donc aujourd'hui un troisième témoignage, c'est ce qu'on a lu et qu'on va détailler. Il va donner un témoignage de qui il est et de qui il n'est pas. Et au-delà de notre carte d'identité, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est important que chacun de nous, nous puissions savoir qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Ça paraît rien comme ça de dire, mais je vais le détailler et vous allez, j'espère, comprendre la teneur de ce que nous dit ce passage. Alors, après le contexte, on va voir les acteurs. Quels sont les personnages qui vont intervenir ? Alors tout d'abord, il y a les Juifs qui commandent. Les Juifs commanditaires, hein, il y a des gens qui envoient, ils restent à Jérusalem, tranquille. Il nous est dit les Juifs. Alors c'est intéressant parce que les Juifs, c'est un terme qui est utilisé très très souvent dans l'évangile de Jean. Les Juifs, comme ça. 70 fois dans l'évangile de Jean, alors que dans les trois synoptiques, Matthieu, Luc et Marc, on ne les trouve que 17 fois. Vous vous rendez compte? Pourquoi ce déséquilibre? Alors, le mot « juif », c'est un terme un petit peu méprisant qui désignait ces responsables qui ont rejeté le Messie et ainsi qui attirent sur eux la condamnation. Parce que quand on rejette le Messie, c'est là qu'on est condamné. On n'est pas condamné parce qu'on a fait des mauvaises œuvres, parce qu'on a péché. Alors, si, indirectement. Mais en fait, ce qui condamne ou ce qui sauve l'être humain, c'est pas le péché. Ce n'est pas les mauvaises œuvres, ce n'est pas les mauvaises actions. Ça vous étonne ce que je vous dis? Ce qui condamne, c'est de rejeter le Messie, de ne pas accepter le Messie. C'est ça qui condamne. Jésus a dit, celui qui croit en moi de ces gens qui a dit « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc, les Juifs, ça désigne ces éléments du peuple d'Israël qui ont rejeté, qui ont méprisé le Messie et qui attirent sur eux la condamnation. N'oubliez pas que Jean est le seul évangile qui a été écrit après 70 après Jésus-Christ. 70 après Jésus-Christ, c'est quoi? C'est les armées romaines qui envahissent Jérusalem, qui détruisent Jérusalem, il n'y a plus de peuple juif. Donc Jean a écrit son évangile très tard. Donc Jean a un regard différent sur ce peuple juif, et c'est pour ça qu'on retrouve ce mot « juif » très souvent, 70 fois, dans l'évangile de Jean, parce que Jean désigne par juif tous ces gens qui ont rejeté le Messie. Donc les commanditaires, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Jean, sur le Messie, en fait, c'est les gens qui rejettent le Messie. Et puis, ces Juifs, donc pourquoi est-ce qu'ils envoient des délégués? Ben parce qu'ils sont intrigués, ils sont étonnés, il se passe quelque chose. Il y a un type là qui est dans le désert, il n'a pas fait d'école biblique, il n'a pas fait l'IBG, il n'est pas érudit, il mange des sauterelles, du miel sauvage, il a un seul vêtement, pas de garde-robe. Et il est en train d'attirer toutes les foules. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont un peu jaloux, parce que eux, ils ont une apparence extérieure de religion, ils tiennent les gens par la contrainte, un peu comme aujourd'hui certaines sectes ou certaines églises officielles tiennent les gens par la tradition, par l'obligation, comme au Moyen-Âge, on tenait les gens par les indulgences. Donc ces gens-là, ils sont jaloux, parce que soudain, il y a quelqu'un qui vient, qui apparaît et qui a beaucoup de succès. Je vous avais parlé des Juifs, c'est intéressant, parce que heureusement, il n'y avait pas que des Juifs à l'époque. Il y avait des gens qui attendaient le Messie, qui étaient pieux au fond de leur cœur. Et on en voit un tout de suite au chapitre 2, c'est Nathanaël. Vous savez, Nathanaël sous le figuier, là, qui voit Jésus. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Voilà un... Non, il ne dit pas un Juif. Voilà un Israélite. Ben oui, les pieux, c'est des Israélites. C'est les descendants d'Israël qui sont au bénéfice des promesses. Donc Jean distingue bien les Israélites et il distingue les Juifs. Voilà un Israélite, est dit Nathanaël, qui n'a pas de fraude. Et après, qu'est-ce que Nathanaël, quand il est démasqué par Jésus, lui dit « Toi, tu es le roi d'Israël ». Donc il y a Israël et il y a les Juifs. Comme aujourd'hui, il y a les gens qui ont Jésus dans leur cœur et il y a les religieux. Les religieux, c'est officiel, c'est ce qu'on voit, ce qui brille, voilà, ce que Jésus un peu a parfois dénoncé au niveau des pharisiens. Hein, ils ont l'extérieur du plat est beau, mais l'intérieur est plein de toutes sortes de choses. Donc, bien comprendre que ces commanditaires sont étonnés, sont jaloux, ils envoient donc des sacrificateurs, des lévites et des pharisiens. Et qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ben on verra, on va voir tout de suite ce qu'ils veulent savoir. Mais parlons déjà de ces pharisiens-là qui partent. Ils font quand même des kilomètres, hein, mine de rien. Jérusalem, c'est à je ne sais plus combien, 900 mètres d'altitude. Il faut descendre jusqu'à la mer Morte. Il y a à peu près, la mer Morte est à moins 400, 700. Il y a plus de 1000 mètres de dénivelé. Il y a au moins 2-3 jours de marche. Donc ils font des kilomètres. Hein, c'est des gens instruits, c'est l'élite de la nation qui se déplace pour aller voir un homme du désert. Qui n'a pas de signification, qui n'a aucune autorité, aucune autorité officielle, et pourtant un homme du désert qui s'est préparé à sa mission, à l'écart de l'establishment de l'époque. Il n'était pas dans les circuits officiels de l'époque, il n'était pas dans l'establishment, c'était un homme du désert qui s'est préparé pendant 30 ans. Jésus et Jean-Baptiste se sont préparés pendant 30 ans avant d'apparaître. Parce que pour avoir un caractère trempé, pour résister à l'establishment, il faut avoir un caractère intérieur trempé pour pouvoir tenir le cap. Et donc, Jean-Baptiste va se retrouver face à ces gens qui viennent lui poser finalement deux questions. Deux questions, donc ça c'est les objectifs. Ils veulent lui poser deux questions. Premièrement, il lui demande « Qui es-tu ?» Avec bien sûr un sous-entendu « Es-tu le Messie ?» Alors c'est là qu'il y a une hypocrisie. Parce que je vous ai dit, ces gens-là, c'est des religieux. Donc la loi, ils la connaissent par cœur. Ils ont lu l'Ancien Testament et ils savaient que le Messie devait naître où ? À Bethléem, de quelle tribu ? D'accord. Jean-Baptiste, il est de quelle tribu ? Il est de quelle tribu ? D'Israël. Quelle tribu ? La tribu de Lévi. Il est fils de sacrificateur. Zacharie, le gars qui se retrouve muet face au temple. Vous vous souvenez ? Luc chapitre 2. Donc, Zacharie, il est fils de sacrificateur, tribu de Lévi, ça peut pas être le Messie. Donc, s'ils avaient un peu de jugeote, ils sauraient que c'est pas le Messie. Donc, qui es-tu ? Ils sont tellement étonnés de la popularité de Jean. Pourquoi ? Parce que eux sont dans l'apparence et ils sont dans l'impopularité. Ce sont des religieux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'avaient aucune influence sur le peuple, si ce n'est par contrainte. Et la deuxième question qu'il lui pose, pourquoi baptises-tu ? C'est une question plus légitime, quoique. Il faut savoir qu'à l'époque, le baptême, c'était quoi le baptême ? On n'est pas encore dans le Nouveau Testament, hein, on n'est pas dans le baptême que nous pratiquons. Mais le baptême, c'était réservé à l'époque aux gentils, aux non-juifs, qui embrassaient la foi juive, qui devenaient des prosélytes. Donc, ils se faisaient baptiser pour leurs péchés. C'est comme ça, à l'époque, on baptisait les juifs. Les non-juifs, excusez-moi. On baptisait les non-juifs. Et là, Jean, il se met à baptiser les juifs, donc c'est pas normal. Ça nous intrigue, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il respecte pas la loi, il est complètement à côté de ses chaussures. Et donc la signification du baptême de Jean, c'est un baptême de repentance, on le sait par Matthieu. Et donc ces deux questions vont fournir à Jean l'occasion de montrer en quoi ces 30 années de préparation de ministère ont façonné un homme qui est équilibré, un homme qui avait un projet de vie, qui ne laissait le soin à personne de définir quelle était sa mission, un homme qui ne se laisse pas griser par le succès. Il savait qu'il devait diminuer et que Jésus devait grandir. Et même Jésus louera Jean-Baptiste. En Jean chapitre 5, verset 33, il dira « Jean-Baptiste, il a rendu témoignage à la vérité. » Jésus va attester la véracité des paroles de Jean. C'est dire son importance. Il occupe quasiment la moitié du prologue de Jean. C'est extraordinaire. Deux fois il est cité dans la première introduction du prologue qui présente Jésus, plus ce témoignage très puissant avant même l'apparition de Jésus, avant son baptême, etc. Donc c'est un homme puissant et équilibré. Et donc il va donner 6 réponses par rapport à tout ça. Alors voyons un peu ses réponses. Qu'est-ce qu'il répond ? Premièrement, il dit « Je ne suis pas le Messie ». Et c'est important ça, parce que le peuple était dans l'attente du Messie. On le savait que le Messie allait venir. Tous se demandaient, hein, Luc chapitre 3 verset 15 nous dit, tous se demandaient si Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Et il est très clair, je ne suis pas le Messie. Il aurait pu dire, ouais, mais vous comprenez, bon, moi je suis cousin, on se connaît, il aurait pu se mettre un peu en avant, rouler les mécaniques, ouais, mais bon, je ne suis pas le Messie, mais pas loin, quoique. Hein. De temps en temps, on se prend un peu pour le Messie aussi. Vous savez, on veut sauver le monde, on veut faire des tas de choses et tout. Ben non, Jean, il est clair, je ne suis pas le Messie. Non, j'ai un autre rôle. Je reste à ma place. Il ne s'agit pas, il est calme. La deuxième réponse, il va dire, je ne suis pas Élie. Alors pourquoi je ne suis pas Élie ? Ben parce que Malachie, hein, certains d'entre vous connaissent cette prophétie, en Malachie chapitre 3, verset 23, on va aller la lire quand même, c'est intéressant. Vous avez vos Bibles, on va aller en Malachie 3, 23, c'est juste avant Matthieu. Malachie 3, 23, c'est presque la fin de l'Ancien Testament. Le prophète Malachie nous dit, « Voici, moi-même je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Point. Fin de l'Ancien Testament. Une des dernières paroles de l'Ancien Testament, c'est une parole d'espoir, « Je vais vous envoyer Élie. » Alors les gens disaient, mais Élie va venir. Là encore, si les gens avaient été attentifs, lorsqu'il nous a raconté l'enfance de Jean-Baptiste, et lorsque notamment l'ange apparaît à Zacharie, son père, il va parler de l'enfant qui naît miraculeusement dans le sein d'Élisabeth, il va dire, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Ça avait été dit, ça, à Zacharie. On est dans le Nouveau Testament, on est dans Luc. ça avait été dit, mais c'est passé inaperçu. Parce que les choses parfois importantes passent inaperçues, il faut être très attentif. Alors il aurait pu revendiquer Jean-Baptiste, mais mon père Zacharie, quand il était dans le temple, l'ange lui avait dit que, etc. Il aurait pu rouler des mécaniques, et il dit non, je ne suis pas Élie. Et c'est vrai, il n'est pas Élie. C'est Jésus qui dira, c'est lui l'Élie qui doit venir. Donc il joue le rôle d'Élie, mais même ça, il ne se met pas en avant. Il est très humble. Troisième chose qu'il n'est pas, il n'est pas le prophète. Ça, c'est la fameuse prophétie de Deutéronome 18. Quand Dieu dit à Moïse, Dieu vous enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc ils attendaient cette espèce de prophète équivalent à Moïse, alors que Jésus est bien supérieur à Moïse, voire épître aux Hébreux. Là encore, il aurait pu revendiquer ça, il aurait pu se mettre en avant, et il va carrément refuser toute gloire. Non, je suis pas tout ça. Il est au clair avec qui il est. Et qui il est vraiment? Eh bien, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Cette prophétie d'Ésaïe. Cette voix qui apparaît au milieu du désert, qui apparaît au milieu d'un état spirituel dégradé. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je baptise dans l'eau, et Matthieu nous dit, en vue de la repentance. Il connaît son rôle. Il sait qu'il est là pour baptiser, pour annoncer un baptême de repentance. Il annonce pas le pardon des péchés, il en est incapable, seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais il annonce la venue de Jésus. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit, qui ôtera le péché. D'ailleurs, il va le présenter au chapitre 2 de Jean, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Jean, il est précurseur. Il baptise juste, il prépare les gens. C'est un préparateur. Il connaît sa place, il est pas numéro 1. Jésus le positionnera comme numéro 2, le plus grand de tous les humains qui soient nés. Mais lui ne revendique rien. Il est juste une voix qui crie dans le désert. Il baptise d'eau. Et enfin, dernier signe d'humilité, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et là encore, vraiment un magnifique exemple d'humilité. Vous savez, je fais référence au texte de Jean 13, quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Vous savez que les routes de Palestine étaient poussiéreuses, donc lorsqu'on était reçu dans une maison, il y avait ici un esclave qui lavait les pieds. Et en fait, seuls des esclaves non juifs pouvaient faire ça. C'est-à-dire un esclave juif, vous savez, l'Ancien Testament dit que parfois des juifs peuvent tomber dans l'esclavage. C'est là qu'il parle aussi des années de jubilé au bout de 7 ans, on libère les esclaves, etc. Un esclave juif ne lavait pas les pieds. Seul un esclave non juif pouvait laver les pieds. Et là, Jean-Baptiste, lui qui est juif, qui est fils de sacrificateur, il dit, mais moi qui suis juif, je ne suis même pas digne d'être comme un esclave non-juif pour délier la courroie de ses sandales et lui laver les pieds. Vous imaginez la position qu'il prend volontairement d'abaissement. Pour moi, c'est vraiment une leçon. C'est vraiment une leçon d'humilité. Et Jean, au travers de ces 6 paroles, il se définit, mais on ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair. Il était clair avec qui il était. Et pourquoi ça? Parce que d'abord, il savait qui était Jésus. Et c'est important de savoir qui est Jésus. Voir la confession de Pierre, Matthieu 16:16. Qui dites-vous que je suis? Jésus pose cette question à ses disciples. Je vous renvoie à un message de Nasser l'année dernière qui avait traité ce sujet. Il savait que Jésus était l'agneau de Dieu. Et pour un juif pieux, ça parlait. L'agneau de Dieu, ça parlait. Depuis des années, des siècles, il sacrifiait des agneaux le soir de la Pâque, un agneau pur sans défaut qui était sacrifié en préfiguration de l'éloignement de l'ange exterminateur, ce qui s'est passé en Égypte. Donc, Jean révèle que Jésus est l'agneau de Dieu, on ne peut pas être plus clair. Il savait qui il était, il savait son rôle, il savait ce qu'il fallait dire, il avait un discours clair, puissant, plein d'autorité, il était à l'aise avec ce qu'il disait, il était prêt à en payer le prix. Parce que lui, l'homme du désert, plus tard, il va reprendre Hérode le tétrarque, qui est en adultère, en ayant pris la femme de son demi-frère Philippe, et ça va lui coûter sa tête, ça va lui coûter la prison, et ça va lui coûter sa tête. Il était prêt à payer le prix de son message, parce que c'était un homme radical qui savait qui il était. C'était une personne fortement différenciée dans son intégrité personnelle. C'est un terme que je réutiliserai dans l'étude sur les dons. Savoir se différencier. ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas partir, par exemple, avec l'esprit du monde, avec en faisant un petit peu par-ci, un petit peu par-là, en vagabondant à droite, à gauche, en prenant un petit peu de ci, un petit peu de ça. On a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui ont un message radical, qui sont ancrés dans l'Évangile, qui ont largement ouvert leur cœur à Jésus-Christ, et chez qui Jésus-Christ vit et prend toute la place. Et Jean est un exemple d'une personne comme ça. Et pourtant, je vous décris un Jean parfait, mais Jean, un peu plus tard, sera mis en prison. Et comme c'est un homme de la même nature que nous, un homme comme Élie, hein, c'est Jacques qui dit Élie était un homme de la même nature que nous, il va être en prison et il va douter. Parce qu'il se dit, c'est pas possible. J'ai fait tout ça, je suis resté intègre jusqu'au bout, je me retrouve en prison. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et il envoie des disciples pour voir Jésus et dire, est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus le réconforte en disant, non, regarde ce qui se passe, c'est bien moi le Messie. Voilà, donc ce tableau de Jean idyllique, eh bien il est juste humain. Il nous montre qu'on peut tendre vers cette perfection d'intégrité morale, spirituelle, et pourtant avoir parfois des doutes, se laisser emporter par des doutes, que Dieu va nous aider à ôter. Voyez, Jean, c'est quelqu'un, c'est un roc. C'est pas comme Voltaire. Voyez ce qu'il dit, je ne suis pas profond. Ben Jean-Baptiste, lui, c'était un profond. Parce que l'Esprit de Dieu vivait en lui. Il avait cette assurance que ce qu'il faisait, c'était juste. Il savait qui il était. Il savait qui il n'était pas. Alors, quelques applications rapides, parce que le temps passe. Déjà, pour les disciples, quelques applications pour les disciples. Jean a été un exemple pour eux de fidélité en parole et en acte. Et c'est pour ça que des disciples l'ont suivi. Et après, il les a emmenés, il les a transmis à Jésus. Et le témoignage de Jean va entraîner des conversions. Lorsqu'on lit dans Jean chapitre 10, verset 41, hein, Jean chapitre 10, c'est le fameux passage du bon berger, eh bien, les gens sont venus à Jésus et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu, plusieurs crurent en lui. Donc Jean était un exemple qui a entraîné énormément de conversions. On va avoir une semaine d'évangélisation. Eh bien, ce n'est pas tant les paroles qu'on va dire qui vont compter, c'est plutôt notre mode de vie, notre façon de faire. C'est notre exemple, parce que parfois on peut avoir la parole embarrassée, on ne sait pas quoi dire, on va dire des choses contraire peut-être, mais c'est notre mode de vie qui va faire la différence. Et donc il y a eu beaucoup de conversions à Jésus parce qu'à un moment donné, les gens ont compris que Jean annonçait vraiment le Messie. Alors pour ses auditeurs, eh bien, ils voulaient en savoir plus sur Jean, mais le but de Jean-Baptiste, lui, c'était de pointer sur Jésus. Et donc il a pris sa place. Et il y avait tout un symbole, je vous ai raconté tout à l'heure Bethabara, ce lieu du désert, où les Juifs qui étaient eux dans le désert sont allés voir Jean dans le désert. Jean voulait les amener à Jésus et malheureusement, il voulait annoncer ce changement d'époque, cette nouvelle alliance qui arrivait. Et beaucoup de ces pharisiens n'ont pas suivi. Ils ont préféré rester dans leur loi. Il nous est dit dans Jean chapitre 12, malgré tous les miracles qu'ils avaient faits, Jésus avait fait, ils ne croyaient pas en lui. Ben oui, quand le cœur demeure dur, quand Jésus n'habite pas dans un cœur, on ne peut rien faire. Heureusement, il y a quelques pharisiens, comme Nicodème par exemple, qui ont été touchés par le message de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'être au clair pour nous avec qui est Jésus? Eh bien, si on n'est pas au clair avec nous-mêmes, sur notre identité, sur notre mission, sur ce qu'on fait ici sur Terre, eh bien, on va laisser autre chose nous définir. On va porter un masque, on va se définir par ce qu'on fait, notre activité, ce qu'on produit. On peut se laisser définir par ce qu'on possède, une belle maison, une belle voiture, plusieurs appartements, je ne sais quoi. Il n'y a rien contre la possession, Dieu n'a jamais dit ça. Mais est-ce que ça me définit ou pas? On va se laisser définir parce que les autres pensent de moi. Donc je vais chercher à faire plaisir, à paraître gentil pour que les gens disent du bien de moi. Donc si je fais ça, ben, je me définis par autre chose. Je suis influencé. Si je suis pasteur dans une église, par exemple, ben voilà, est-ce que je vais oser dire la vérité? Parce que si jamais ça froisse certains et que certains quittent l'église, mes statistiques vont baisser. Donc du coup, voilà quoi. Ou on va se laisser définir parce que les autres voudraient faire de moi. Peut-être j'ai un parent ou un grand-parent qui voulait absolument que je fasse tel et tel métier. Alors voilà, ben j'ai suivi ce métier. Puis à un moment donné, je pars en vrille parce que c'est pas mon métier. C'est pas le truc qui me correspond. Donc on peut être en insécurité émotionnelle. Et quand on dirige une équipe, cette sécurité ou cette insécurité émotionnelle est capitale pour réussir avec son équipe. Là, j'ai pas le temps de détailler, mais il y a tout un chapitre, ça a été étudié depuis quelques années en entreprise, l'intelligence émotionnelle, c'est Daniel Goleman qui a fait ça. Je n'ai pas le temps d'en parler, on en parlera peut-être si vous voulez dans l'atelier sur les dons. Je voudrais vous donner rapidement le témoignage de cette personne, vous ne la connaissez probablement pas, il s'appelle Clifford Steele, ça vous dit quelque chose ? Clifford Steele. C'est un Américain qui a vécu, il est né en 1904 je crois, il est mort en 1970. Il a été fondateur d'un mouvement qui s'appelle l'expressionnisme abstrait. Donc vous voyez, ça c'est ses œuvres. Bon, personnellement, je ne suis pas très perméable, mais si quelqu'un a une signification, peut m'expliquer, je suis très ouvert. Voilà. Bon, Clifford Steele, il est américain. C'est quelqu'un qui, dans les années 30-40, avait énormément d'argent. Il était opulent, ça marchait bien, il avait un business qui marchait bien. C'est un artiste reconnu, il a créé ce mouvement expressionniste. C'est l'une des personnes, on considère que c'est l'une des personnes qui a contribué à l'explosion de New York comme une place d'art. Vous savez que l'une des galeries d'art de New York, Sotheby's, est quand même l'une des galeries qui vend les tableaux les plus chers du monde. Les Van Gogh, les Cézanne, etc., qui partent à plus de 100 millions d'euros, viennent de Sotheby's. D'accord ? Donc il a été à l'origine de tout ça. Et en 1951, alors qu'il était au sommet de sa gloire, il a décidé de tout arrêter. Il en avait marre du business, de l'argent, etc. Enfin, voilà, un peu comme des artistes d'Hollywood qui, de temps en temps, pètent un câble. Et lui, en l'occurrence, il n'a pas pété un câble, mais il s'est interrogé sur qui il était. Et il s'est dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça, les vernissages, la gloire, etc., les photographes. Il a acheté avec sa femme une ferme en Pennsylvanie, s'est retiré. Jusqu'à la fin de ses jours, il a continué à peindre. Et c'est un artiste qui n'est pas connu. La preuve, c'est qu'il s'est retiré. 1940, ça fait un moment déjà. Vous ne le connaissez pas, ben parce qu'il s'est retiré. Néanmoins, il a fait un geste qui est extraordinaire, c'est qu'il a, à un moment donné, il a dit, moi je donne toute mon œuvre, il a peint 800 et quelques tableaux, je donne gratuitement toute mon œuvre pour la constitution d'un musée. Et donc il a créé, il est mort, c'est sa femme qui a créé un musée à Denver dans le Colorado. Et pour payer la construction du musée, il s'est dit, sur les 800 et quelques, je vais vendre 4 de mes œuvres. D'accord ? Donc en 2011, c'est pas vieux, en 2011, il a vendu 4 de ses œuvres, là, aux enchères, chez Sotheby's, qui sont partis à 114 millions de dollars. Ça va pour construire un musée. Aujourd'hui, si vous allez à Denver, vous avez le musée Clifford Steele. Mais souvenez-vous de Clifford Steele, non pas par ses œuvres, mais par son courage et son caractère. Il a su à un moment donné dire non à la gloire, non à l'argent, se retirer. Il n'avait pas d'enjeu. Il n'avait pas de pression, on l'a critiqué, tout ça. Il y a des tas de gens qui ont publié des choses sur lui, il s'en fichait. Parce qu'il savait qui il était et il savait qui il n'était pas. Voilà. Donc, pour conclure, eh bien, cette sécurité émotionnelle de Jean-Baptiste pourrait être la nôtre aussi. Pourrait être la nôtre aussi, à condition qu'on puisse savoir qui est Dieu, donc avoir une juste image de lui, savoir qui je suis, qui je ne suis pas, d'avoir ce sentiment intérieur de qui je suis, ne pas porter un masque, alors je pourrais avoir de l'autorité dans ce que je fais. Je pourrais exprimer mes dons et mes talents. Parce que le cœur de toute vie spirituelle authentique et profonde, pas comme celle de Voltaire, mais le cœur de toute vie spirituelle authentique et profonde, c'est recevoir Jésus dans notre cœur. Ce n'est pas des pratiques religieuses. Ce n'est pas ça qui donne l'approbation de Dieu. Ce n'est pas des pratiques religieuses, c'est laisser entrer Jésus dans notre vie, le laisser remplir toute la place et savoir rendre témoignage à la vérité de Jésus par qui l'on est, en exerçant nos dons, en exerçant nos talents. Tout à l'heure, on a chanté ce chant, car dans ton cœur, il est rentré le roi de gloire pour y régner. Bien, je souhaite que, en ce début d'année, Jean-Baptiste nous montre la voie pour être ce témoin dans nos vies, en vivant une vie parfaitement différenciée, en sachant qui l'on est et qui l'on n'est pas, parce qu'on est unique aux yeux de Dieu. Et pour ceux qui viendront, donc, je vous donne rendez-vous le vendredi 6 mars à 20h. C'était une étude biblique qui sera spécialement consacrée aux dons spirituels. Je vous invite à réfléchir sur ce petit tableau tout simple. D'écrire pour vous quelques lignes, qui je suis, qui je ne suis pas. Et si vous voulez aller plus loin, c'est important de vous poser cette question. Peut-être vous ne savez pas répondre tout de suite, c'est pas grave, mettez quelques trucs. Et de toute façon, on approfondira ça vendredi 6. On aura encore deux autres ateliers consacrés aux dons spirituels, deux dimanches de suite. Et j'espère que si vous êtes interpellé par ça, vous n'êtes pas obligé de venir, mais si vous êtes interpellé par ce sujet, si vous êtes interpellé par le témoignage de Jean-Baptiste, par sa vision claire de lui-même, sa sécurité intérieure, eh bien, je vous donne rendez-vous donc le 6 mars pour cet atelier sur les dons spirituels. Merci.